bibliothèque de Reykjavik, il n'y a pas de bibliothèque de Reykjavik, donc c'est dur. Mais là, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de fiches biblio dans les bibliothèques. Il n'avait pas de bibliothèque, enfin, il avait celle de son papa, dans lequel il y avait entre autres un petit livre. Ouais, et du coup, il en a profité pour en faire des choses. Et puis surtout, voilà, non seulement pas vraiment la possibilité donc, de faire un type de travail systématique, mais on a les traces. On a les traces dans les textes, on a les traces dans des lettres. Voilà. Donc c'est un peu de ça que je vais vous parler. L'autre aspect que je vais vous parler, c'est que Machiavel est quand même sorti assez souvent de sa bibliothèque. C'est-à-dire qu'il était même souvent sur les chemins, quoi. Sur un cheval. Pour aller, voilà, pour aller faire l'ambassadeur, tout ça. Voilà. C'est devenu quasiment rituel de dire je ne suis pas un spécialiste de Foucault, mais néanmoins, j'ai écrit un truc sur Foucault, ça s'appelait, avec Jean-Louis Fournel ici présent, ça s'appelait sortir de la bibliothèque. C'était l'idée que parfois Foucault, tout en étant évidemment avec ce travail fantastique de bibliothèque, parfois avait trouvé des choses ailleurs et dans un truc qu'on appelle horreur, horresco, référence. Le travail militant. C'était sur l'Égypte et la productivité intellectuelle du groupe Information sur les prisons. Voilà. Donc là, le titre de mon intervention, ça sera la bibliothèque de Machiavel et le laboratoire de Machiavel, deux points, et là c'est une citation qui donne un peu l'idée du type de travail, de la méthode de travail de Machiavel, que tout le monde connaît parce qu'il y a la lettre de préface du prince. Et ce que j'ai appris par la longue expérience des choses modernes et la continuelle lecture des choses antiques. Voilà, ça sera donc ça le fondement. Alors, avant de commencer vraiment, dire que c'est quoi ma propre bibliothèque pour aborder ça. Donc, d'abord, vous savez que là, pour le coup, les bibliothèques sur Machiavel, la réception de Machiavel, il y en a. Des rayons entiers, vraiment des rayons entiers, des bibliothèques entières même, et simplement, bon, les points sur lesquels les œuvres philologiques et biographiques, exégétiques sur lesquelles je m'appuie, c'est avant tout donc, des travaux philologiques, hein, je pense des travaux comme ceux de Giorgio Inglese, l'édition Delegazioni Commissari e Scritti di Governo, hein, les écrits. Voilà, de Machiavel quand il était secrétaire de la chancellerie. Et c'est une nouvelle édition extrêmement importante pour quiconque travaille sur ces questions, dirigée par Jean-Jacques Marchand. L'autre truc sur lequel je m'appuie, c'est donc toutes les contributions biographiques. Il faut rappeler un des grands noms, parmi les gens qui ont amené des choses sur le 19e, etc. Mais au 20e siècle, c'est Roberto Ridolfi, il n'y a pas de doute. Et je signale la contribution d'un jeune chercheur italien, une contribution beaucoup plus récente, sur un aspect important de la formation de Machiavel et de son travail à la chancellerie, qui est donc le livre de Andrea Guidi, Segretario Militante. Voilà. Et puis, évidemment, on ne peut pas, sur la question de comment Machiavel travaille, qui y cite, qui y cite pas, etc. Bon, au moins faire les noms de Federico Chabot, Gennaro Sasso, Mario Martelli, et puis les grandes éditions savantes des anglo-saxons, comme on dit, Walker, Bird pour Walker pour les discours et Bird pour la France. Un point très particulier, c'est une contribution relativement récente de Carlo Ginzburg sur l'usage d'un livre de la bibliothèque du père de Machiavel, qui est un livre de droit, qui est donc un point important. Alors, le deuxième aspect de sur quoi je m'appuie, c'est un travail d'édition et de traduction que j'ai mené en commun avec Jean-Louis Fournel, sur Le Prince, mais aussi sur d'autres textes de cette période historique qui donne sens à l'écriture de Machiavel. Francesco Guicciardini, Savonarole, enfin des choses comme ça, des traductions faites par d'autres collègues et amis, peut-être amis avant tout, de notre laboratoire, sur traduction des discours par Alessandro Fontana, Xavier Tabet, Et puis j'ajoute à ça, parce que c'est lié aux problématiques du travail sur Foucault, et c'est que à ce travail praticien de la traduction, s'est ajouté donc une réflexion permise par un outil informatique donc développé avec là aussi avec une ingénieuse de notre laboratoire, Séverine Getzelman. Donc c'est un outil qui s'appelle HyperPrince et qui permet une lecture synoptique de l'édition Princeps du Prince, celle de Rome chez Blad en 1532, et les traductions françaises du XVIe siècle, et qui permet également l'indexation lexicale sur corpus bilingue. Alors là, ça c'est costaud. Ouais, ouais. Donc ça permet de réfléchir. Ouais, comment c'est. Bon, ouais, ça permet évidemment une réflexion sur le lexique de départ, le lexique d'arrivée et sa diffusion, et plus encore peut-être, non, enfin pas plus encore, et tout autant sur l'acte du traduire en. Voilà, alors là pour le coup, je pense que cet outil-là permet de savoir comment, je sais pas quoi, Jacques de Vintimille traduit, comment Jacques Gory traduit, comment. Voilà. Bon, donc c'est ça le point de départ. Alors, je vais partir d'un texte, le texte dont on peut dire c'est la lettre la plus célèbre de la littérature italienne. C'est une lettre du 10 décembre 1513, dans laquelle Machiavel écrit à son ami Francesco Vettori, qui est alors ambassadeur de Florence à Rome, et il lui annonce dans cette lettre qu'il vient de rédiger un opuscule sur les principales, un opuscolo dei principatibus. Et il précise dans cette lettre que si quelqu'un le lisait, il y aurait des gens qui vont le lire, pas forcément celui à lequel c'était dédié, mais il y en avait un paquet depuis. Si on le lisait, on verrait que pendant les 15 ans où j'ai fait mon apprentissage dans le métier de l'État, je n'ai ni dormi, ni joué. Ouais. Alors, en italien, c'est un stato, studio all'arte dello stato. Ouais, je reviendrai un tout petit peu après sur cette expression, et je n'ai ni dormi ni joué, il a bossé, quoi. Il a fait du cheval, tout ça. Ouais. Il a écrit tous les jours des lettres à la chancellerie, tout ça. Donc, au moment où il écrit ses lettres, donc 1513, il vient depuis un an de perdre son travail, depuis 1498, il était secrétaire de la seconde chancellerie de la République florentine, sauf que voilà, la République n'existe plus parce que en novembre 1512, les Médicis sont de retour et donc il a perdu son job. Donc cette lettre-là, d'ailleurs, a une des fonctions de cette lettre du 10 décembre 1513, c'est de demander conseil à son ami Vettori, qui lui est resté très proche des Médicis, il est ambassadeur de Florence à Rome, donc des Médicis à Rome. Et lui demander conseil sur la façon de rentrer en grâce. Voilà. Donc pour ça, il me dit, si on le lisait, on verrait que je suis un vrai travailleur, il faut me prendre quand même. Enfin bref, ils ne le prennent pas. Mais au-delà de cette fonction, de cette lettre, cette lettre met en évidence deux aspects importants de la méthode de travail de Machiavel, celles qui sont donc exprimées par la formule de la lettre de dédicace du prince, ce qu'il sait. Eh bien, il a écrit par une longue expérience des choses modernes et une continuelle lecture des choses antiques. Donc la bibliothèque et l'expérience, la bibliothèque et l'action. Alors, le premier pilier de la méthode machiavélienne, donc la longue expérience des choses modernes, prend dans cette lettre du 10 décembre 1513 la forme d'un clin d'œil dans l'allusion aux 15 années qu'il a passées dans l'arte dello stato. Cette expression a souvent été comprise dans un sens théorique qui pourrait induire en erreur. Machiavel ne dit pas ici qu'il a étudié l'art de l'État, mais il fait allusion à son absence d'intérêt envers toutes les autres arte qu'il y a à Florence, parce qu'à Florence, arte, l'arte della seta, l'arte della lana, ce sont les corporations qui organisent à la fois le travail et la réalité de la composition sociale de la cité. Voilà. Et donc, au-delà de ce clin d'œil, il y a une indication importante. S'occuper des choses de l'État, cose dello Stato, est un métier, et c'est dans ce métier que s'est forgée la longue expérience des choses modernes. Et c'est un métier qui, précise-t-il également dans la dédicace du prince, qu'il a fait au prix de désagréments et de périls. Parce que derrière l'histoire de ces textes, il y a un moment historique bien particulier, celui des guerres d'Italie et des effets des guerres d'Italie sur Florence, l'état de guerre et le bouleversement qu'il a induit. Hein ? Alors, dans une lettre du 3 janvier 1526, hein, qui est envoyé par Machiavel, un autre ami important, Francesco Guicciardini, qui dit que, résume le sens du moment, toujours, aussi loin que je me souvienne, ou bien on a fait la guerre, ou bien on en a parlé. La guerre est l'élément déterminant de la période, l'élément qui a entraîné una mutazione delle cose, une variation, un bouleversement total des choses. C'est ce que Machiavel appelle la qualité des temps, la qualité des temps.